6h45, comme chaque jour, les enjeux internationaux avec Thierry Garcin. Aujourd'hui, Thierry, la justice pénale internationale, votre invité Pierre Azan.
Bonjour Marc Moichet et bonjour Pierre Azan, vous êtes en ligne de Genève, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférence à l'Université de Genève, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage paru aux presses universitaires de France en 2007 intitulé « Juger la guerre, juger l'histoire ». On va revenir dans un instant sur donc cet acquittement tout à fait surprenant des deux généraux croates, acquittement donc c'était en novembre dernier. Et d'ailleurs je reprends, vous allez reprendre une argumentation que vous aviez publiée dans le journal Le Monde, le 15 décembre 2012. Alors voilà pour les précisions. Alors, il faut rappeler quand même une chose simple, c'est qu'il y a eu le Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, le premier du genre, donc voulu par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un tribunal ad hoc, et puis il y a eu un second tribunal ad hoc, toujours voulu par le Conseil de sécurité de l'ONU, à l'époque c'est le Tribunal pénal international sur le Rwanda, et puis beaucoup plus important d'une certaine façon, évidemment, en 98, les fameux statuts de Rome de la Cour pénale internationale qui a ouvert ses portes à La Haye en 2002. C'est une justice qui se veut universelle, qui n'est pas une justice ONU, c'est une justice indépendante de l'ONU, mais voulue notamment au travers d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette Cour pénale internationale ne juge que si l'État concerné ne veut pas ou ne peut pas agir. Au départ, il y avait 4 chefs d'inculpation, c'est-à-dire crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, qui est évidemment un crime contre l'humanité, et puis acte d'agression qui, pour l'instant, ce 4e chef d'inculpation, n'a pas donné lieu à quoi que ce soit. Et puis alors, c'est évidemment une Cour pénale internationale qui se veut universelle, mais qui est hémiplégique depuis sa naissance, puisqu'il y a des pays qui ne sont pas signataires ou qui sont signataires mais qui ne veulent pas le ratifier. Et parmi ces pays, il y a évidemment des États aussi considérables que les États-Unis, Israël, la Russie, la Chine, on verra tout cela. Et puis, il y a eu aussi, ça c'est intéressant, parallèlement, une multiplication de tribunaux mixtes, on les appelle souvent des tribunaux hybrides, internationaux, plus ou moins crédibles d'ailleurs, portant sur la Sierra Leone, portant sur les Khmers Rouges, portant sur le Liban, c'est-à-dire le tribunal Hariri. Et également, on a accusé souvent, à juste titre d'ailleurs, d'une certaine façon, cette Cour pénale internationale d'être une Cour pénale internationale qui africaine, puisqu'elle, la plupart du temps, elle ne juge que des dirigeants africains et beaucoup, beaucoup de dirigeants non-africains. Africain passe largement au travers des gouttes d'une façon très confortable. Alors, on va revenir sur cette affaire croate. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, Pierre Azan, en novembre 2012 ?
Ce qui s'est passé, c'est que la Cour d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a décidé d'acquitter les deux généraux qui étaient responsables de l'opération Storm, qui avait fait que quelque 200 000 Serbes qui vivaient dans les Krajina avaient été obligés de fuir. La Cour a reconnu que des crimes de guerre avaient été commis, mais elle a exonéré les principaux responsables. Alors ce qui est évidemment troublant, c'est qu'on a une réalité des crimes, et puis en même temps, il y a eu cet acquittement. Alors la raison alléguée de cet acquittement, selon la Cour, c'était le fait que le premier jugement avait estimé que si un objectif militaire n'était pas atteint et que les obus tombaient à plus de 200 mètres de l'objectif militaire, cela pouvait constituer un crime de guerre. Et c'est ce point-là que la Cour d'appel a voulu casser. Or, si personne aujourd'hui ne tient forcément à défendre ce critère mathématique comme quoi un obus qui tomberait à plus de 200 mètres d'un objectif militaire constituerait un crime de guerre, il n'en demeure pas moins que des crimes ont été commis et que la Cour, par un autre moyen, aurait pu finalement arriver au même résultat.
Ce qui est surprenant quand même, c'est que ces deux personnalités, des généraux croates, notamment le célèbre général Gotovina croate, avaient été tous les deux précédemment condamnés en première instance à 24 ans de prison.
Exactement. Si on essaye de comprendre la motivation du juge, et là on ne peut que spéculer, mais en tout cas, disons, ce qui se chuchote, en tout cas à La Haye, c'est l'idée qu'un certain nombre de pays, peut-être de pays impliqués dans des conflits asymétriques, avaient vu avec énormément d'inquiétude le premier jugement et craignaient qu'eux-mêmes, dans d'autres conflits, pouvaient, si les armes qu'ils utilisaient n'étaient pas suffisamment précises et qu'ils loupaient de quelques centaines de mètres leur objectif militaire, pouvaient se trouver en position d'accusés de potentiels criminels de guerre. Donc, on a un peu l'impression que ce qui a été le jugement de la Cour d'appel, cet acquittement, et non pas une analyse de ce qui s'est passé dans les Balkans, mais plutôt une réflexion géostratégique sur ce qui est de passer ailleurs à l'avenir.
Et en même temps, à l'égard des Balkans, Pierre Azan, on est frappé par une chose, c'est le fait que souvent ce tribunal pénal international sur la Yougoslavie et l'ex-Yougoslavie est au fond un tribunal, on l'a souvent accusé d'être anti-serbe beaucoup plus que anti-crime de guerre et crime contre l'humanité, dans la mesure où un certain nombre de dirigeants bosniaques musulmans, croates, et puis dans l'affaire des Balkans, Kosovo aussi, là aussi en ont réchappé et que finalement, il y a une sorte de politisation induite de ce tribunal qui, d'ailleurs, d'une certaine façon, permet de réécrire l'histoire à sa façon, mais d'une certaine façon.
Première constatation, ce qu'il faut mettre quand même au crédit du tribunal, qu'il a réussi à inculper les principaux auteurs des crimes commis dans l'ex-Yougoslavie, y compris Radovan Karadzic et Ratko Mladic, qui sont notamment sans doute présumés responsables des massacres de Srebrenica. Donc c'est un point important. La deuxième constatation, c'est que des gens de toutes les communautés, de tous les camps, ont été inculpés. Troisièmement, et c'est là où effectivement il y a quelque chose de regrettable dans ce jugement et dans le jugement Haradinaj, donc celui de l'ex-premier ministre qui a lui aussi été acquitté, c'est le fait que cette histoire des crimes qui devait être écrite par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ne le sera pas autant qu'elle aurait dû l'être, puisqu'il y a eu cet acquittement. Il y a eu l'acquittement donc de l'ex-premier ministre kosovar. Personne ne réfute la réalité des crimes, mais simplement les témoins ont été terrorisés et donc se sont rétractés et donc l'accusation s'est effondrée. Et là encore, ça pose un véritable problème en termes de fonctionnement de la justice internationale.
Voilà, donc Pierre Azan, c'est ça au fond la question qu'on est tenté de vous poser, c'est en ce qui concerne la Cour pénale internationale, elle, est établie à La Haye également, mais qui finalement est une cour, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est incomplète.
Alors, effectivement, il y a peut-être trois facteurs, disons, à mon sens, problématiques et trois facteurs d'espoir. Alors, elle est incomplète dans la mesure où, effectivement, il y a un certain nombre de pays, de grands pays, vous les avez cités, qui n'ont pas ratifié les statuts de la Cour pénale internationale, mais néanmoins, par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, peuvent référer des cas au procureur de la Cour pénale internationale. Et là, on pense au Soudan ou à la Libye. Donc il peut y avoir une dimension instrumentale de la justice pénale internationale. Cette dimension instrumentale peut se retrouver par des acteurs locaux qui eux aussi comprennent qu'ils peuvent utiliser la Cour pour criminaliser un autre côté ou leur ennemi. On peut penser par exemple au président ougandais, Museveni, qui a fait intervenir la Cour et laquelle n'a inculpé que les responsables d'une guérilla absolument odieuse par ailleurs, mais n'a pas poursuivi certains responsables de l'armée ougandaise qui sans doute eux aussi ont commis des crimes internationaux. Donc la question de la sélectivité se pose à un niveau, disons, des grandes puissances, mais aussi des puissances locales ou régionales. Peut-être une deuxième difficulté, c'est qu'on a beaucoup promis, beaucoup attendu avec cette justice internationale en termes de prévention et de dissuasion. On voit aujourd'hui avec la Syrie, avec quelques 50 000 morts ou 60 000 morts, que la capacité dissuasive de la Cour pénale internationale demande à être vue. Et peut-être troisièmement, et pour revenir à Gotovina et à Haradinaj, il y a cette dimension d'écrire, une dimension pédagogique de faire l'histoire, d'écrire l'histoire, et parfois effectivement cette histoire n'est pas écrite ou est écrite de manière très incomplète. À côté de ça, il y a quand même des facteurs d'espoir. Il y a une capacité, à mon sens, de mobilisation des sociétés civiles qui mettent pression sur les gouvernements et cela donne un certain nombre de résultats positifs. Il y a aussi le fait que, par exemple, toujours dans cette dimension mobilisatrice, la question de la compétence universelle, qui jadis avait été perçue comme une sorte de néo-impérialisme des pays du Nord, est maintenant de plus en plus pratiquée par le Sud, par des pays du Sud. L'ex-dictateur du Tchad, Hissène Habré, va être jugé au Sénégal. Un ancien responsable franquiste, donc de la guerre civile espagnole, va être jugé en Argentine, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer qui, de ce point de vue-là, est salutaire. Troisièmement, et on peut aussi mentionner le droit des femmes, et notamment les violences sexuelles qui surviennent souvent dans des conflits. Maintenant, à travers le processus de judiciarisation, on voit aussi qu'il y a un processus de sanctions qui est en train de se mettre en place et qui peut avoir des effets, disons, positifs. Donc, il faut avoir un jugement nuancé, ne pas trop promettre d'une justice internationale qui est encore dans l'enfance et qui est quand même soumise à des tensions et à des pressions politiques, mais en même temps reconnaître qu'en termes de mobilisation de société civile, quelque chose est en train de se passer.
Voilà, merci Pierre Azan, donc maître de conférence à l'Université de Genève, auteur de « Juger la guerre, juger l'histoire », toutes ces références bien entendu sur notre site franceculture.fr, évidemment dans la rubrique « Les enjeux internationaux ». Demain, nous allons parler de la Ligue arabe, donc c'est le sommet économique de l'organisation qui va être consacré à l'économie des pays arabes, évidemment sans doute les retombées économiques des soulèvements populaires dans le monde arabe depuis les premiers événements en Tunisie en décembre 2010. On peut évidemment tout de suite citer l'Égypte, puisque quatre grandes sources de revenus sont le canal de Suez, le tourisme, l'argent des émigrés et puis le pétrole. Donc en quoi est-ce que ces revenus ont peut-être été entamés par les bouleversements politiques? On peut citer aussi le cas de la Tunisie avec le tourisme. On peut citer, alors on en parle d'ailleurs trop peu, le cas de la Jordanie, qui a toujours été entre le marteau et l'enclume sur le plan géographique, à cause évidemment du conflit israélo-palestinien, à cause de la guerre du Golfe, à cause de la guerre d'Irak 2003, et puis à cause de la guerre civile syrienne depuis des mois. Alors jeudi, ce sera aussi, puisqu'on a un petit moment, jeudi, on va parler de l'Union africaine, notamment il y a un sommet à Addis Abeba avec une nouvelle présidence. On parlera de l'Union africaine, de la gestion des conflits armés sur le continent. L'Union africaine a été créée il y a une dizaine d'années, et 54 pays environ, l'ensemble des pays africains, sauf bien sûr le Maroc, à cause du dossier de l'ancien Sahara espagnol, en très grande partie occupé par Rabat depuis le milieu des années 70. D'ailleurs, il faudra peut-être préparer une semaine spéciale sur les territoires occupés dans le monde, en dehors du Golan qui est syrien, de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, bien entendu palestinienne. Il y a environ une petite dizaine de territoires occupés dans le monde. Si vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas à nous le dire, franceculture.fr.
Merci Thierry Garcin, à demain.